Voilà, bon, on va commencer. Oui, alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, le thème du séminaire sera en parfaite conformité avec celui du cours, puisque l'intervention d'Étienne de la Vessière va permettre d'approfondir certaines hypothèses qu'on peut émettre sur la fonction et la nature de la population de Campyr-Tépé. Donc aujourd'hui, je vais terminer en fait la présentation de Campyr-Tépé et, si j'ai le temps, aborder une autre ville moyenne kouchane extrêmement représentative qui est d'Alverzin-Tépé. Il restera en fait, après ce cours, il en restera deux. Oui, la dernière semaine, donc le 27 février, je pense qu'en fait je ferai 2 heures de séminaire. Et ça se terminerait donc à 5h30, ce qui fait que l'année se terminera avec le mois de février. Et puis l'année prochaine, on continuera sur les villes kouchanes, et puis on abordera ensuite les villes des époques ultérieures. Alors, on a donc vu la dernière fois que l'assise économique de Campyr-Tépé était très difficile à déceler. Pas de véritable arrière-pays agricole, des activités artisanales difficiles à saisir, une activité de céramiste, mais semble-t-il avant que la ville ne devienne vraiment une ville à l'époque kouchane. Ce qui s'aperçoit, c'est une activité d'emporium, de stockage, et très vraisemblablement une activité d'hospitalité, donc des activités en rapport direct avec la fonction de lieu de passage, et puis évidemment dans le simple plan d'urbanisme permet de déceler que tout était fait pour permettre à la population de garnir rapidement les remparts et les tours, ce qui déjà donne une idée de la nature de cette population. Et puis également, on avait donc vu les quartiers délimités par les rues qui, en fait, se présentent sous une forme fractionnée avec, en réalité, des petites unités de 2-3 pièces qui ont, semble-t-il, certaines structures de vie collective. Bon, alors, je reviens là-dessus. Les fouilleurs, notamment Sergueï Bolielov, se sont interrogés, ont été frappés, comme on peut l'être, par caractère assez étrange, en fait, de l'existence de cette ville avec si peu de choses pour la soutenir, et se sont interrogés sur la nature de la population. Alors, en ce qui concerne le fractionnement des unités résidentielles, Bolielov a envisagé 2 hypothèses. L'une d'elles, c'est qu'on aurait affaire, je le cite, au stade ultime de l'éclatement des familles patriarcales. Alors, les familles patriarcales, c'est un peu une tarte à la crème dans l'archéologie urbaine de l'Asie centrale. Le grand Tolstov insistait énormément là-dessus, que tous ces établissements fortifiés, c'était des grandes familles patriarcales. Bon, c'est un thème très récurrent dans le marxisme soviétique. Ça remonte à Engels et au-delà, ça remonte à l'anthropologue américain Morgan. Ces histoires de grandes familles souches, patriarcales, matriarcales. Enfin, bon, en Asie centrale, on serait plutôt du côté du patriarcal. Qui expliquerait, qui serait l'ultime origine de tout. Toutefois, Bolielov, assez rapidement, arrive à des apories sur cette hypothèse, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, la ville ayant été fondée au plus tôt, à ville basse, ayant été fondée au plus tôt vers 90 de notre ère, et son existence s'arrêtant 60 ans après, il faudrait donc supposer que les dites familles patriarcales auraient éclaté en une ou deux générations. C'est assez court. Et puis surtout, il y a un argument archéologique. Dans la ville basse, on ne trouve pas trace ou très peu de grands locaux de réception qui, même si les maisons n'ont pas évolué dans le sens pour lequel elles avaient été conçues, devrait exister si au départ c'était conçu pour des grandes familles. On voit que dès le début c'est très fractionné. Alors il envisage une seconde hypothèse, c'est que la population de la ville aurait été de manière assez homogène, formée d'une classe, là aussi je le cite, hein, de petits dépendants, en fait de dépendants modestes à caractère militaire, rattachés à une structure étatique, voilà, des petits colons militaires menant tout de même une vie familiale, bon, là on le voit, mais qui était une population, disons, entièrement mobilisable, toujours sur le pied de guerre, donc menant une vie quasi, une vie un peu casernale, hein, des petites unités, et puis des tambouilles collectives, etc. Bon, ça effectivement, c'est un peu l'impression qui surgit à la lecture, à la vue du plan général, et puis des rapports de fouilles détaillés des différents quartiers. Ce qui expliquerait donc les structures collectives qui sont saisissables, notamment au niveau de l'alimentation, éventuellement des sanctuaires, mais là c'est une question qui est loin d'être claire et à laquelle on consacrera un séminaire en particulier. Ces petites structures collectives seraient en fait liées non pas à l'héritage d'une famille patriarcale antérieure, mais à de simples relations de voisinage entre ces petites unités familiales. Alors ça peut effectivement expliquer l'absence évidente d'une élite urbaine visible. Le seul endroit où on aurait peut-être un peu ça, c'est ce bloc-là, à l'ouest de la citadelle. Si ça n'est pas un sanctuaire, mais une salle de réception, ça, oui, ça pourrait être la maison, disons, de l'officier commandant la place ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'on aperçoit. Je cite à nouveau Bolyolov. Qu'Empire Tépé, dans les premiers siècles de notre ère, comme dans toutes les périodes précédentes, ne peut être considéré comme une ville au plein sens socio-économique du terme. On doit y voir plutôt une puissante forteresse, un établissement bien défendu qui s'est développé sur l'emplacement stratégique d'un passage fluvial sur la Moudaria, mettant en relation la Bactriane septentrionale et la Bactriane méridionale. Donc peut-on parler de ville ? Des parallèles viennent à l'esprit. Un parallèle très évident dans l'archéologie de l'Empire romain, c'est ce qu'on a très bien observé au mur d'Adrien, où au départ, il y avait des garnisons à l'arrière et qui étaient stationnées dans le mur. Dans la dernière phase d'occupation, avant que le mur ne soit abandonné au moment où les lignes de défense ont été reportées plus au nord avec le mur d'Antonin, on voit, les archéologues constatent très bien que ces légionnaires ou troupes auxiliaires désormais vivent en famille, ce qui en principe dans le système de la Légion romaine n'était pas possible. Ils ne pouvaient se marier, ils ne pouvaient prendre femme qu'à l'issue du service. Ils vivent en famille et ils squattent les tours, ils squattent les remparts. Enfin bon, donc on pourrait avoir quelque chose comme ça. Sauf qu'à Qu'Empire Tépé, on voit la vie familiale, semble-t-il, est présente dès le début. Alors, on peut aller au-delà, mais là, je ne veux pas trop anticiper sur ce que va nous expliquer Étienne. Est-ce que Qu'Empire Tépé n'aurait pas été le maillon d'un chaînon continu d'établissements à caractère principalement militaire, établi consciemment par l'action du pouvoir couchant et sur un axe stratégique nord-sud? Alors je vais déjà montrer à sa grande fureur une image qu'il va certainement montrer lui-même. Un axe stratégique nord-sud avec donc la capitale Bactre, le site de Zadiane dont il va nous parler, qui semble avoir été une défense avancée de l'oasis de Bactre, le site de Qu'Empire Tépé, donc ce site évidemment de quasi-garnison, disons, sur un emplacement stratégique qui est un lieu de franchissement du fleuve, et au-delà vers le nord, toujours dans, sur un même axe nord-sud, les portes de fer qui... donc ici, on a donc Bactre, Campyr Tépé, et là, le grand verrou fortifié des portes de fer, qui est la vraie frontière nord de l'Empire couchant, le long sur une passe montagnarde, oui, disons, une route montagnarde qui se trouve être le seul point de franchissement de la chaîne au nord de la Bactriane qui soit franchissable en toute saison. Il y en a d'autres, mais ils ne sont franchissables qu'au beau jour. Et au-delà, des zones que le pouvoir couchant n'a pas contrôlées ou n'a contrôlées que pour de brèves périodes et qui relèvent de la Sogdiane et de la confédération nomade des Kankyu. Donc on aurait là un axe continu. Une série de verrous successifs. Enfin bon, Étienne va nous expliquer où il en est avec cela. Les portes de fer fouillées par Claude Rapin ici présent, une muraille dès l'époque grecque mais qui a été assez rapidement désaffectée. À l'époque couchane, une muraille très puissante. C'était très spectaculaire avant que le site ne soit quasiment détruit récemment. Vous voyez la muraille ici sur 1,5 km qui barre la vallée. Alors là, pas véritablement d'établissement de garnison, mais disons un logement, un fort près de la porte. En tout cas, il fallait du monde pour garnir tout ça. Et puis la grande muraille couchane, très puissamment renforcée à l'époque couchano-sassanide au IVe siècle. Là, très rapidement, pour ne pas anticiper sur ce que va dire Étienne, voilà ce site de Zadian dont il va nous parler, qui est à la frontière, qui est un établissement très vraisemblablement de colonisation, reste à savoir précisément quel type de colonisation, sur la zone, la lisière nord de l'oasis de Bar, toujours sur cet axe nord-sud. Et d'une certaine façon, le site qui va prendre la succession de Campyr Tépé après l'abandon de celui-ci, c'est-à-dire Termèse, sur un autre point de franchissement. Les données sont plus difficiles à manier parce que le site est beaucoup plus grand, il se pose beaucoup de questions sur la chronologie, la citadelle se délimite assez bien, un faubourg à caractère vraisemblablement religieux se voit également très bien, ce qui est incertain pour l'époque antique, c'est ce qui se passe ici. Y a-t-il ou non une véritable ville fortifiée ? C'est certainement le cas, mais est-elle limitée à ces remparts qu'on voit encore ? Est-ce que c'était toute cette zone ? Est-ce que c'était plutôt au bord du fleuve ? Là, il y a beaucoup de questions qui se posent. En ce qui concerne Termèse, se sont posés en fait des problèmes du même ordre que ceux qu'on a pour Campyr... Enfin, se sont posés aux fouilleurs des problèmes qu'on a du même ordre que pour Campyr Tépé, c'est où est le terroir agricole. Bon, on voit qu'à Aïkhanoum, on a tout de suite compris, dès la première année de la prospection, que la ville était l'émanation d'un immense terroir agricole mis en valeur avant sa fondation. À Campyr Tépé, on a vu que c'est très peu de choses. Les petites zones irriguées autour du site ne suffisaient pas à sa subsistance, qui devait sans doute être amené en partie par le fleuve. À Termèse, on peut aussi se poser la même question. L'ensemble du terroir irrigué sur la basse vallée du Surkhandaria, c'est pas plus de 10 000 hectares, c'est-à-dire que c'est moins de la moitié ou le tiers de la plaine d'Aïkhanoum, et Aïkhanoum n'avait pas que la plaine d'Aïkhanoum, il y avait d'autres plaines qui étaient dans la périphérie. Là, je cite les remarques intéressantes qu'a faites Sébastien Streit, qui a beaucoup étudié ces questions d'irrigation en Bactriane septentrionale. Termèse toute seule n'avait pas de raison d'exister. Elle n'existait pas quand les Russes sont arrivés à la fin du XIXe siècle. Elle n'existait pas quand les Grecs sont arrivés. Bon, il se peut que la citadelle ait existé, on a quelques arguments pour penser ça. Au Moyen-Âge, elle était certainement beaucoup moins importante que Tchaganian, qui était beaucoup plus au nord. La cité n'a existé que dans le cadre d'un grand État suprarégional ou d'un empire, l'État couchant, les empires musulmans pré-mongols et l'époque soviétique. Voilà. Là j'en ai assez dit sur ce qui va être dit tout à l'heure. Je dis simplement que si l'hypothèse se vérifie, d'une série d'établissements à caractère principalement militaire sur cet axe nord-sud, ça montre que pour les couchants, la défense de cet axe était absolument vitale et que c'est de ce côté-là, c'est-à-dire le côté d'où eux-mêmes étaient venus, qu'ils craignaient la menace principale. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est pas de ce côté-là qu'ils sont morts. On a vu qu'Empire Tépé n'a jamais subi de siège. On peut se poser la question pour d'autres sites. Ils sont morts par l'Ouest et ils sont morts par l'Inde. C'est en fait l'Empire sassanide, partenaire probablement dont ils n'auraient jamais soupçonné l'émergence et l'hostilité au moment de leur splendeur, qui au début du 3e siècle vient porter le coup fatal en Bactriane, et simultanément c'est la désintégration de leur domination sur l'Inde suite à l'émergence de l'État Gupta. Bien. Je vais rapidement dire quelques mots sur la question. J'ai évoqué comme structure collective à Empire Tépé les cambuses, les cuisines qu'on repère dans certains endroits. On voit très bien que chacune des unités, voilà une unité d'habitation, en voilà une, chacune, elles n'avaient pas toute leur autonomie culinaire. On voit très bien que ça s'organisait par relation de voisinage. Si vous allez aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui des mahallas dans le vieux Samarcande, enfin il n'y en a plus beaucoup, le vieux Boukhara, c'était un peu ça aussi. Une grande partie de l'économie domestique présente un caractère en fait assez collectif, avec des tambouilles collectives, des réceptions qui n'en finissent pas, etc. Les gens mangent et puis on peut supposer qu'à cette époque, les gens adorent des dieux. On a toute raison de le supposer, mais où à Empire Tépé ? Gros problème, il n'y a rien qui puisse être appelé un temple. On va voir que dans la totalité des villes que nous allons maintenant aborder dans les cours suivants, il y avait des temples. Là, il n'y en a aucun. Alors, j'ai supposé que peut-être il y avait eu effectivement un temple, mais qu'il était près de la rivière et qu'il était dans la zone qui aujourd'hui a disparu. Bon, mais c'est une simple supposition, on n'a rien pour l'étayer. Sinon, on a donc les débats en cours sur la signification de ce qu'ils appellent partout dans leur publication les hôtels domestiques, qui sont en fait des foyers muraux qui existent dans certains locaux pour lesquels donc il y a tout un débat en cours. Les fouilleurs soviétiques ont tendance à considérer la quasi-totalité des cas qu'il s'agit d'installations cultuelles ou ayant servant à la fois au chauffage et au culte. Paul Bernard, dans un article extrêmement important, a donné beaucoup d'arguments négatifs. Mais c'était avant la fouille de Empire Tépé. Il faut reprendre tout ça. Peut-être arriver à une solution un peu moyenne. En tout cas, on voit dans la ville basse, il y en avait en fait, si c'était vraiment des structures religieuses collectives, il n'y en avait pas beaucoup. Oui, alors ça c'est Empire avant. Voilà, s'il y avait un temple, je pense qu'il était près du port et qu'il était là. Bon. C'est uniquement dans cette zone qu'ils ont qualifiée comme parfois dans les cultuelle. Dans les publications, parfois ils disent le temple. Bon, il y a une concentration plus importante qu'ailleurs de foyers muraux dans des locaux Et ils soupçonnent que voilà, ces corridors qui ont l'air d'entourer les choses, ça évoque l'architecture des temples de Bactriane. À mon avis, ça n'évoque pas. Bien. Et par ailleurs, à la citadelle, ils ont des limites 6 ou 7. Un assez important ici, mais curieusement, c'est quand même un endroit où il y a des banquettes tout autour. Ça ressemble furieusement à une salle de réception. Bon. Et puis, 6 ou 7 ici. Alors, en fait, bon, c'est pas le même fouilleur qui a publié ça et qui a publié ça. Donc, bon, on voit très bien, selon les orientations personnelles du fouilleur, il va avoir tendance à mettre un sanctuaire partout où il voit une cheminée contre le mur, ou bien il va être plus discriminant. Bon, alors, un des arguments, évidemment, qui revient toujours, c'est que ces âtres muraux faisaient l'objet, étaient décorés, il y avait des colonnettes, on avait fait un effort pour que. Voilà. Mais bon, Paul Bernard ensuite a montré que on pouvait dire exactement la même chose des cheminées qu'on a trouvées dans les salles de bain d'Aïr Hanoum et dont la fonction purement matérielle est hors de doute. D'ailleurs, petite anecdote, quand Victor Sarianidi a visité la fouille d'Aïr Hanoum et que Paul Bernard lui a montré les foyers de salles de bain qu'on venait de découvrir, Sarianidi, avant même qu'on lui explique que c'était dans un contexte de salle de bain, a dit Altar. Non. Et après, il a fallu lui expliquer, mais non, ça ne peut pas en être ici. Il avait immédiatement réagi comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, à part cette question hautement délicate des foyers muraux, qu'est-ce qu'on a d'autre pour essayer de cerner les croyances et les cultes de cette ville? On a les figurines de terre cuite, dont on ne sait d'ailleurs pas si elles ont été produites sur place, probablement pas, et on a les bâtiments funéraires. Bien. Alors les figurines de terre cuite, je l'ai déjà dit, ce n'est pas des chefs-d'œuvre. Hein. Ici, alors, comme il semble avoir une tiare qui est cassée et des couvre-joues qui peuvent se rabattre devant la bouche, on pourrait à la grande rigueur y voir un prêtre zoroastrien, puisqu'ils ont effectivement des masques devant la bouche quand ils sont. Bon, c'est plutôt, plus vraisemblablement, un donateur infidèle, figuré avec le costume aristocratique du cavalier iranien. Marchak a toujours dit qu'avant le 5e, 6e siècle, les petites terres cuites d'Asie centrale ne représentaient pas des divinités, mais n'étaient que des ex-voto représentant soit des musiciens, soit des donateurs. Bon, ici, vous voyez ce couple amoureux à l'indienne dont on a refait les visages en batracien. Bon, ce guerrier, voilà. C'est vraiment pas de quoi s'exciter. Un tableau plus, voilà, plus complet. J'en viens tout de suite. Oui, il y a une seule figurine de terre cuite dans tout Kampir Tepe qu'on peut identifier à une divinité. C'est la seule figurine bouddhique. Vous me direz, ce n'est pas très évident. En fait, c'est Bouddha en Abhaya Mudra, avec la main. Et ça correspond à des types, bien qu'avec son manteau indien, etc. C'est la seule. Trouvé hors contexte, évidemment, dans une pente. Là aussi, c'est quelque chose qui paraît très étrange à Kampir Tepe par rapport à toutes les autres villes d'époque kushane qu'on connaît, où le bouddhisme est très présent, à la fois dans les petits objets et dans les structures, il s'affiche beaucoup. À Kampir, il n'y a rien qu'on puisse dire bouddhique, sauf cette unique figurine. Il ne semble pas non plus qu'il y ait eu des sanctuaires bouddhiques à la périphérie. Ou plutôt, il y en aurait eu, mais après l'abandon de la ville, voilà. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Bon, ça pourrait. Il y a une explication. C'est toujours très délicat de raisonner à partir des absences. Il y a quand même une explication qui peut venir à l'esprit. C'est que par rapport à toutes ces villes, Kampir est celle qui est morte la première. Elle disparaît vers 150 après Jésus-Christ. Or, les plus récentes études cumulatives sur la diffusion du bouddhisme en Bactriane, je pense notamment à un article bilan que vient de faire Gérard Foussmann dans le colloque où nous étions à Berlin sur l'histoire des couchants en décembre dernier. insiste sur le fait que cette diffusion a été finalement assez lente, assez tardive, qu'il n'y a rien de très tangible avant l'époque du roi couchant Sotermégas, qui est le fondateur probable de la ville basse de Campyr-Tépé, c'est-à-dire fin du 1er siècle après Jésus-Christ. En tout cas, les monnaies trouvées dans les... Fussmann a très soigneusement répertorié les monnaies qu'on trouve dans les reliquaires, par exemple. C'est un argument, c'est l'argument le plus précis qu'on peut avoir sur les dates de fondation. Il n'y a rien d'avant, il n'y a rien d'avant Sotermégas. On peut penser au bouddhisme bactrien. Peut-être n'est vraiment monté en puissance que sous les derniers couchants, ou Vishka, Vasudeva, les Kushano-Sassanides. Et on sait aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a cru à une certaine époque sous l'influence des voyageurs chinois des époques plus tardives, que la Bactriane n'a probablement jamais été une très grande terre du bouddhisme. Il avait des protecteurs, il était présent, mais ça n'était probablement pas la religion majoritaire. Comme Fussmann le souligne également très justement, quand on est au Gandhara, quand on est dans l'Inde du Nord, dans la région de Kaboul, on voit tout de suite que la totalité des hauteurs, tous les lieux sur lesquels on pouvait construire un stupa sont occupés par un stupa. En Bactriane, c'est très très loin d'être le cas. Donc voilà, ça pourrait être assez cohérent avec la vie relativement brève du site de Campyr-Tépé. Ils n'ont pas eu le temps de devenir bouddhistes. Bon. Par ailleurs, les autres figurines qu'on a relèvent de plusieurs catégories. Dans le type du donateur, bon, il y a cette musicienne qui joue du luth à manches courtes. On peut dire que c'est une divinité. Ça n'en est probablement pas une. La musique est une des offrandes qu'on apporte aux dieux. Ça peut tout à fait être un ex-voto. Ces figurines affreuses là, qu'on met sous la catégorie déesse-mère, parce qu'on n'a pas vraiment grand-chose d'autre à dire. En tout cas, on ne peut pas les identifier à des figures connues du panthéon zoroastrien. Ce qui apparaît vraiment à partir de l'époque des Yuezhi, c'est ces figurines de cavaliers, dont certains d'ailleurs ont très nettement des bonnets de la steppe coniques. Et là, on voit là, que c'est vraiment lié à l'arrivée d'une nouvelle population. Alors à partir de là, on va dire des ancêtres divinisés ou des dieux cavaliers ou tout ce qu'on veut. En tout cas, visiblement, là, il y a une symbolique du cavalier qui est en rapport avec ces populations d'origine nomade. D'une certaine façon, ce qu'on peut se mettre sous la dent, si on veut faire parler ce modeste répertoire d'une manière zoroastrienne, c'est ça. Vous allez me dire pourquoi. Ce sont des petites figurines qui représentent des animaux et qui en fait servent d'anse sur un type bien déterminé de céramique qui sont des petits cruchons. Et la tête de l'animal est tournée vers la bouche du vase. Donc visiblement, l'animal, d'une certaine manière, est en rapport avec ce qui va sortir du vase. Ce qui est curieux, c'est qu'on ne les trouve, semble-t-il, que dans la région de Termez, Campyr-Tépé, Sherabad Daria. C'est vraiment une mode assez locale. Bien. Quel est cet animal? Il y a deux propositions qui ont été faites. Des hérissons ou des sangliers. Dans les deux cas, on est très content parce qu'il s'agit de deux animaux sacrés du zoroastrisme. Le hérisson est très très apprécié dans les textes zoroastriens à cause de son rôle d'exterminateur des serpents. C'est un animal particulièrement attaché au dieu Sroj qui mène la guerre contre les démons. Quant au sanglier, il est l'une des sept incarnations animales de Veritragna, dieu de la guerre. Bon. L'opinion penche plutôt en faveur de sangliers, parce qu'on a des images plus nettes. Bon. Alors, oui, là, on arriverait à quelque chose. Le dieu de la vie, le principe de la victoire, en fonction de protection, etc. Ceci dit, c'est pas, disons, c'est zoroastro-compatible. on ne va pas dire que c'est forcément zoroastrien, puisque ces mêmes petits types de sangliers sont connus également dans une partie du répertoire sarmate de la mer Noire. Et c'en est peut-être d'ailleurs l'origine. Alors, évidemment, les sarmates semblent avoir eu aussi, avoir peut-être même connu le dieu Viretragna, mais alors là, on arrive dans un domaine très hypothétique. À part les figurines de terre cuite, pour faire des suppositions sur ce que ces gens croyaient, on a les bâtiments funéraires. Alors, on a en fait deux nécropoles. Il n'y a pas de véritable banlieue autour de Kampir Tepe. Rien de substantiel, sauf quelques fours de potiers d'époque grecque. Mais on a deux ensembles d'édifices funéraires, un à l'ouest, un à l'est. Il faut savoir que, disons, en Asie centrale, d'une manière quasi généralisée, à partir de l'époque hellénistique jusqu'à l'arrivée de l'islam, les nécropoles sont hors les murs. Et quand elles s'occupent des bâtiments dans les villes, notamment des sections de remparts, etc., on s'aperçoit en général qu'il s'agit de parties des villes qui étaient désaffectées au moment où elles ont été réoccupées de manière funéraire. Alors là, évidemment, ça sonne assez zoroastrien, puisque les textes insistent sur la nécessité absolue de séparer les morts des vivants. On trouve deux types de bâtiments. Enfin, à mon avis, ils se réduisent à un seul. Alors, ces petits mausolées, avec une sorte de plateforme au milieu, là, des petites chambres, quand un plan est publié sans indiquer une porte, c'est soit que le fouilleur a mal fouillé, c'est pas le cas à Kampir Tepe, soit que le bâtiment était tellement détruit qu'on n'en a vraiment que les substructions très peu au-dessus. Bon, c'est le cas ici. Mais enfin, c'est connu, ces types de bâtiments sont connus. Ils étaient destinés à des... On y déposait des morts sur des banquettes. Alors, quand on les trouve en bon état, ce qui n'était pas le cas ici, on a des os complètement dispersés. Et puis, dans certaines chambres, on a des os dispersés qui parfois sont compactés, regroupés dans certaines chambres. Et par ailleurs, on trouve des squelettes entiers. Ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Nos collègues ont tendance à penser que ces ossements dispersés résultent du précepte zoroastrien consistant à faire décharner les corps sur des hauteurs, par les oiseaux ou par les chiens. On a quelques témoignages de ce qu'effectivement ça existait en Asie centrale, mais c'était loin d'être généralisé. Très souvent, en réalité, les corps étaient déposés sur des banquettes. La seule chose qui faisait que tout de même cette pratique était compatible avec les doctrines zoroastriennes, c'est que les corps n'étaient pas mis en pleine terre. Donc on peut, d'une certaine façon, la nécessité de préserver la pureté de l'élément de la terre était respectée. Mais c'est vraisemblablement ce qu'on avait ici. C'est-à-dire des corps mis sur des banquettes, alors on les voit ici, et puis après les ossements étaient. Alors est-ce qu'on a des raisons de penser qu'il y a un rapport avec le zoroastrisme? Oui, parce que on a ces foyers qui sont devant. C'est Kampir Tepe, le premier endroit où ça a pu vraiment être observé. Ça correspond vraiment assez bien à quelque chose qui est prescrit et dans les textes zoroastriens sur les prescriptions funéraires et parfois représenté dans l'iconographie. C'est que durant les 3 jours qui suivent la mort, au moment où on suppose que l'âme est encore l'objet d'une compétition au ciel entre les forces du bien et les forces du mal, on allume des feux près de la tête du mort ou près de l'endroit où il a été déposé pour éloigner les démons. Par ailleurs, on sait que tous les ans, au moment de la fête des morts, qui précédait de peu le nouvel an, on apportait des offrandes et on faisait des fumigations pour les âmes des morts. Alors aujourd'hui, chez les zoroastriens d'aujourd'hui, ça se fait qu'ils n'ont plus de mausolée puisque tout va dans des bâtiments funéraires collectifs. Ça se fait dans les maisons. Mais l'archéologie de l'Asie centrale montre qu'autrefois, ça se faisait devant les mausolées où les corps avaient été déposés. Voilà un exemple, une image peinte sur un ossuaire du Khwarezm du 8e siècle. Vous voyez ici, je serai amené à revenir à d'autres occasions, les personnages qui se lamentent. Ça, ce n'est pas du tout admis dans les textes zoroastriens, mais ça, apparemment, ça se faisait beaucoup. Ce symbole de porte, on s'est beaucoup interrogé. On pense maintenant que c'est le symbole de la porte c'est le symbole du paradis. C'est la porte du paradis. Ici, c'est une femme qui est morte. Ici, on peut en discuter, mais très vraisemblablement, c'est la stylisation d'un petit hôtel du feu ou d'un petit brûloir. Donc c'est ça qui est représenté. Le feu qui éloigne les démons et qui est placé devant l'endroit où on a déposé le mort. Alors, on a trouvé à l'est un autre ensemble, à l'est de Kampir Tepe, avec des chambres sur un très long alignement. Là, c'est très curieux, les chambres étaient complètement vides de tout. Et en revanche, dans une tranchée devant, se trouvait un riche matériel avec des petits ossements, de la céramique, des petits ossements humains, de la céramique, des petits ossements d'animaux et des brûloirs qui avaient été parfois intentionnellement cassés, dont certains étaient enfouis la tête en bas, n'est-ce pas Henri Paul, hein, dont l'analyse a pu montrer qu'ils avaient contenu, ils avaient servi à brûler des petites brindilles et des bourgeons d'églantier. Donc ils ont dû servir à des fumigations. Typologiquement, dans certains cas, on peut y voir l'évolution d'un type d'objet transportable connu déjà à Iranoum, les petits socles en pierre, trouvés notamment dans le contexte du temple, qui ont effectivement parfois ces formes de base de colonne et étaient destinés clairement à supporter une cupule ou un petit vase où on allumait des feux. Et on aurait ici peut-être l'évolution de ce type d'objet avec le récipient intégré au pied. En tout cas, ces objets n'ont semble-t-il pas d'autre fonction que cultuelle. On les trouve dans les contextes funéraires. Et alors, l'hypothèse qu'a faite le fouilleur, Rdveladze, c'est que ici, ce n'est pas des petits mausolées où on dépose les corps jusqu'au moment où ils se décomposent, puis où on conserve les ossements. Ce type de structure, nos collègues ex-soviétiques les appellent les naous, parce que c'est le nom que leur ont donné les conquérants arabes. Les conquérants arabes ont décrit les cimetières d'Asie centrale. Ils les ont décrits dans des contextes précis qui les intéressaient, c'est-à-dire à un moment, il y a un guerrier qui est pourchassé, et puis on le débusque, il s'est caché dans un naous. Bon. À un autre moment, on va exécuter un roi rebelle, on va le crucifier sur un naous. Parce qu'évidemment, pour un zoroastrien, c'est le condamné à l'enfer, à partir du moment où il meurt en contact avec les substances impures. Bon. Donc, ils ont appelé ça naous, qui est un mot arabe qui en fait vient du grec, naos, petit sanctuaire, petite chapelle. Bon, c'est ça. Mais dans ce cas-là, les fouilleurs, Rdveladze notamment, a pensé à autre chose. Il a pensé à un type d'édifice qui est connu dans la littérature zoroastrienne sous le nom de kata, qui veut dire en fait simplement chambre, et qui est l'endroit où on dépose provisoirement le mort si le mauvais temps ou la nuit empêche son transport au lieu du décharnement. Il a pensé que c'était ça parce que les chambres étaient vides. Bon. En fait, il y a deux arguments qui contredisent complètement cette interprétation. Le premier, c'est qu'on sait maintenant par les philologues, d'une part Alberto Cantera, un article déjà un peu ancien, et d'autre part Octor Cherveux, qui y est revenu récemment, que dans la littérature zoroastrienne, qu'elle soit en avestique ou en pélévi, c'est kata, ça ne veut pas dire quelque chose qu'on va construire spécialement, une chambre réservée spécialement pour déposer les morts, c'est l'utilisation, ce sont des chambres déjà existantes dans la maison. C'est-à-dire qu'on va prendre une pièce dans la maison, suffisamment grande pour que le mort ne risque pas de contaminer les murs, et on va le mettre là. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on construit. Et là, ça met fin à ces deux articles de Cantera et Hrdvéladze, mettent fin à, je dirais, 80 ans de spéculation par les archéologues d'Asie centrale, qui ont parfois, et je me compte dans le nombre, puisque dans ma thèse qui portait sur les pratiques funéraires en Asie centrale, j'ai fait un sous-chapitre sur les katas. Ben, je ne le referai plus aujourd'hui. Ils ont cherché, justement, en dehors des habitations, en dehors des villes, ces structures de stockage provisoire des morts. Elles n'existent pas dans les textes. Bon. Et par ailleurs, dans ce cas-là, on n'attendrait pas des petits os humains dans la tranchée devant. Ce qui, plus vraisemblablement, c'est le scénario le plus vraisemblable, c'est qu'il s'agit de petits mausolées, de lieux où les corps étaient déposés, et qu'on avait nettoyés. On devait de temps en temps, comme c'était tout de même, ça contenait des impuretés rituelles, de temps en temps, on devait faire place nette, on devait vider tout ça, et ça, on mettait tout ça dans des tranchées. Bon. Y compris, par ailleurs, on trouve là, effectivement, ces petits brûloirs qui, eux, ont pu servir sur place, devant l'entrée de ces pièces, pour effectuer les fumigations destinées à éloigner les démons. Peut-être s'agit-il d'une désacralisation, comme on sait qu'Empire Tépé a été déménagé. Les gens n'ont pas quitté dans la panique, ils ont déménagé consciencieusement, ils ont fait des bouchages de portes, ils ont condamné les locaux. On peut peut-être penser qu'il y a eu aussi une opération de lustration. Voilà. En tout cas, bon, comme vous pouvez constater, et c'est général, quand on n'a pas véritablement des temples, les tentatives pour mettre en rapport les données du terrain avec l'affichage officiel sur les monnaies kushanes d'un panthéon zoroastrien très complet, ces tentatives sont souvent décevantes. Les images que les rois mettent sur leurs monnaies et qui sont des dieux zoroastriens bien reconnaissables, on ne les retrouve pas dans le répertoire des terres cuites. Ce n'est pas ce que la population utilisait. On les retrouvera en Sogdiane, certains d'entre eux, plus tard, à partir du VIe siècle. À cette époque, on les retrouve, il n'y a rien de commun, on ne les retrouve pas. Le seul dieu qu'on a à la fois sur quelques monnaies kushanes et dans les terres cuites, c'est Bouddha. Bon. Et l'archéologie funéraire, elle peut être vraiment parlante et bien interprétable par les principes zoroastriens à partir du 5e, 6e siècle en Sogdiane, parce que là, on a une iconographie funéraire, on a des ossuaires, on voit très bien pourquoi les os étaient conservés, qu'on attendait la résurrection, etc. On observe bien les choses. À l'époque antérieure, ce sont des choses qui ne sont pas nettes. C'est un peu des pratiques funéraires, je dirais, passe-partout. Eh ben oui, on met le mort dans un cas. On fait encore ça chez nous, hein. On met le mort dans un caveau, et puis de temps en temps on fait de la place. Bon, alors on saisit tout de même, ce qui serait le plus zoroastrien dans tout ça, c'est effectivement cet usage du feu pour éloigner les démons, hein. À un moment où on les redoute plus particulièrement. Alors, j'en ai donc terminé avec Empire Tépé, pas tout à fait terminé, puisque donc Étienne va être amené à revenir dans l'heure qui suit sur un thème en liaison. Et puis, j'ai laissé volontairement de côté la question de l'existence ou non des chapelles domestiques, parce qu'elles demandent vraiment une investigation fouillée dans les descriptions précises des locaux de Empire Tépé. Entreprise où je suis engagé donc avec Michael Schenkar. On fera probablement une ou deux heures de séminaire là-dessus. J'aimerais beaucoup qu'on ait à cette occasion la participation de Paul Bernard, puisque la discussion, disons, il est l'auteur en 1978 de la discussion théorique la plus fouillée, la plus argumentée sur toute cette question. Bien. Je vais maintenant changer de décor et venir à une autre ville, Kushan, dont j'avais rapidement montré le plan au premier cours, d'Alverzin Tepe. Ville importante, plus importante que Kampir Tepe, à certaines villes, à tous égards, très différentes. Et c'est là qu'on voit que, quand les fouilles sont bien développées, ont embrassé une bonne partie du territoire urbain, on arrive vraiment à saisir ce qu'on peut appeler la personnalité des villes et à cerner ces populations. Alors, d'Alverzin Tepe, la carte est en russe, je m'excuse, c'est ici. Donc voilà Termez, voilà Kampir Tepe sur la Moudaria. Ayhanoum se trouve quelque part par là. On a donc ici la barrière montagneuse du Baïsoun, qui était la frontière nord de l'Empire Kouchan, les portes de fer, verrou stratégique au nord de l'Empire Kouchan, dont j'ai brièvement parlé, sont ici. une série de rivières de Piémont et une rivière importante ici, le Sukhrandarya, qui s'appelait, que les textes Pélévi appellent la rivière de Termez, et qui se jette effectivement à Termez. Alors, dans partie supérieure, disons moyenne, du bassin du Sukhrandarya, se trouve une concentration importante de sites. En fait, c'est plus ou moins, on a l'impression en fait d'une ville qui s'est déplacée. On a ici Khalchayan, qui est un site très très particulier, qui n'est pas vraiment une ville, qui est un site, ostentatoire, enfin, un petit peu comparable à ce que pourrait être Vieille Nisa. Un site où le seul bâtiment en fait qu'on a vraiment fouillé était voué à la commémoration de la dynastie. Et la vraie ville, c'est ici, c'est d'Alverzin Tepe. Et puis ensuite, donc il y a toujours eu un centre important ici au Moyen Âge. Au Moyen Âge, ce sera Chaganyan, siège d'une principauté indépendante, les Banindjourides. Plus tard, aujourd'hui, c'est Denao, qui en Tadjik évidemment c'est Dehenao, le nouveau village. Mais voilà, donc, il y a toujours eu des noyaux urbains ici. On va voir là, contrairement à Termez, contrairement à Kampir Tepe, il y a un vrai arrière-pays agricole irrigué. Alors, voilà donc d'Alverzin Tepe, 31 hectares. C'est pas tellement plus grand que Kampir Tepe. Ben, Kampir Tepe, on ne peut pas dire combien le site faisait avant que la moitié ne tombe dans la rivière. Ben, c'était peut-être à peu près 20 hectares. Bon, là, c'est plus important. C'est en fait, dans la vallée du Sukhrandarya, par importance, par emprise sur le sol, le deuxième site après Termez. Sauf que Termez, on ne peut absolument pas dire aujourd'hui quelle était la superficie de Termez à l'époque kouchane. Là, on le peut. Et on sait que les résidences ne s'arrêtent pas aux remparts. Comme à Ayhanoum, il y a une banlieue. Mal et peu explorée, mais il y avait une banlieue. Bien. Kampir Tepe, d'Alverzin Tepe, en fait, a été le site où l'équipe qui plus tard a fouillé à Kampir Tepe à partir de 1980 s'est faite la main. C'est l'équipe en fait créée autour de Madame Pougatchenkova à Tashkent et son principal disciple Edouard Veladze. Galina Pougatchenkova n'est plus de ce monde, Edouard Veladze est toujours actif Edouard Veladze s'est vraiment affirmé comme le grand maître de l'archéologie kouchane en Ouzbékistan, sur le site de d'Alverzin Tepe. On peut vraiment dire que c'est là qu'il a donné toute sa dimension. Hein, ils ont fouillé de 1962 à 1974. Contrairement à Kampir Tepe, où là on a des rapports quasi annuels très précis, mais qui demandent un très très gros travail de mise en œuvre pour qu'on arrive à en tirer un discours continu, d'Alverzin Tepe a fait l'objet de deux publications compactes, très bien faites. Un livre d'Alverzin Tepe, paru en 1978, qui n'est pas un rapport de fouille complet, qui l'est pour certains chantiers, mais qui donne une vision quand même extrêmement riche de la fouille. Simultanément, ils ont publié un album d'art à Saint-Pétersbourg, à Leningrad à l'époque, 1978, Les trésors de Dalverzin Tepe. Ça, c'était les bonnes connexions léningradoises de Pougatchenkova et Masson. Le fils du vieux Masson, Mikhail Masson, Vadim Masson, qui a aussi après fouillé à Niza, c'était le principe dynastique que j'ai évoqué à partir de Niza, mais un principe dynastique qui marchait bien, s'est retrouvé directeur de l'Institut d'histoire de la culture matérielle de Saint-Pétersbourg. Et donc, comme Saint-Pétersbourg avait des possibilités d'édition artistique importantes déjà à l'époque soviétique, parce qu'ils avaient des contrats avec les Finlandais, ils étaient beaucoup plus dégourdis qu'ailleurs. Ils ont donc sorti en 1978 un album où sont illustrés en grand format, en couleur, les principaux objets trouvés sur la fouille de Dalverzin Tepe, dont les deux se complètent très bien. Et il y a un troisième élément à prendre en compte obligatoirement dans tout travail sur Dalverzin Tepe, c'est le compte-rendu fait par Paul Bernard en 1980 de ces deux livres, compte-rendu paru dans le bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, 36 pages de compte-rendu. Comme il m'a dit à l'époque, je ne l'aurais pas dit, mais à certains endroits, j'ai essayé de les réécrire en plus clair. Bon. Effectivement, c'est un modèle de compte-rendu critique archéologique, parce que ça donne à la fois d'une manière parfaitement claire le contenu du livre dont on rend compte, et puis des discussions critiques, notamment celles que j'ai évoquées à l'instant sur les supposées chapelles domestiques, qui sont absolument, absolument exemplaires. Il en a fait d'autres à l'époque, il en a fait un sur une autre ville, Dilbergine, et c'est pareil, on ne peut pas... D'ailleurs, je dois dire que les... alors que nos collègues à l'époque soviétique étaient parfois, disons, je vais prendre un euphémisme, un peu réticents à prendre en compte nos critiques publiées, je dois dire que dans le cas des critiques parfois assez fortes émises par Paul Bernard, ils ont tenu à maintenir le dialogue, ils ont parfois fait évoluer leur point de vue, ils ont réagi avec beaucoup de respect, et Paul Bernard a toujours été extrêmement bien accueilli sur toutes ces fouilles, y compris à Dalverzin Tepe. Alors, la fouille a ensuite été reprise plusieurs fois de manière un peu sporadique, au gré des cofinancements possibles, puisque c'était malheureusement devenu la règle dans l'archéologie soviétique à partir de l'époque de la perestroïka. Ça a donné lieu à une découverte sensationnelle. C'est en plein milieu de la ville, un sanctuaire bouddhique intramuros qui a donné un matériel tout à fait stupéfiant. Il se trouve que ce sanctuaire a été publié, la publication de ce sanctuaire sous forme d'un article par Tourgounov a été traduite en anglais. C'est donc dans la revue East and West, qui était la revue de l'Institut oriental de Rome, numéro 42 en 1992. Donc on a facilement sous la main, beaucoup plus facilement que dans le cas de Kampir Tepe, ce qu'il faut savoir sur Dalverzin Tepe. Alors, j'évoque rapidement, je décris à grands traits, le site est construit sur le bord de la basse terrasse alluviale de l'Eusse et de Sable qui surplombe la vallée du Sulkhan Darya. C'est toujours le cas pour ces sites. Ils peuvent pas être, ils sont jamais évidemment construits en zone inondable. Donc, ils sont construits sur cette moyenne. Et vous voyez, le site avait des aptitudes stratégiques puisqu'on a un ruisseau, un torrent intermittent de Piémont qu'on appelle là-bas un saï qui l'isole à l'ouest et au sud. Ici, c'est le bord de la terrasse, donc la défense le seul point qui nécessitait vraiment une défense artificielle, c'était la muraille nord. Ça ressemble assez à Kampir Tepe quand on regarde. On a la citadelle ici, et puis on a la ville basse. Mais il y a des différences significatives. Des différences en fait. Il y a des différences surtout sur la chronologie. sur la religion, sur ce qu'on peut supposer de la nature de la population. On est vraiment à un autre extrême du diapason typologique. Mais bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la prochaine fois sur Dalverzine. Et je vais donc... Bon, on va faire une petite pause et ensuite je passerai la parole à Étienne.